France Culture, Soft Power, l'invité de Zoé Svez.
Bonsoir Julien Gossard.
Bonsoir.
Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes maître de conférence en informatique à l'université de Strasbourg. Vous tenez par ailleurs, et c'est comme ça d'ailleurs qu'on peut vous lire, un blog assez riche sur EducPro, qui est une plateforme rattachée au site de l'étudiant, étudiant qui faisait naguère partie du groupe d'ailleurs, que Patrick Rail a racheté mais qu'il a ensuite cédé. C'est pour faire un petit lien avec notre émission précédente. Et dans ce blog, vous écrivez bien sûr sur l'évolution de l'université, évidemment beaucoup sur les enjeux informatiques qui sont liés à toutes ces questions. Vous êtes l'auteur de plusieurs articles d'ailleurs assez passionnants sur la plateforme Parcoursup. Vous avez suivi, disons, toutes les évolutions de ces questions depuis le scandale de la plateforme APB, sa prédécessrice. Vous êtes nombreux d'ailleurs, il faut saluer ici le travail aussi d'Olivier Erched, alias Affordant sur Twitter, qu'on a aussi beaucoup lu sur ces questions. Et on est ici avec vous pour parler finalement de ce changement de paradigme réel que représente la plateforme Parcoursup, Parcoursup dont on parle beaucoup, avec un hashtag parfois parcours supercherie qui a fleuri sur les réseaux depuis que ce parcours est utilisé par les élèves. Mais avant qu'on en parle concrètement, est-ce que vous pouvez me donner quelques éléments de contexte? C'est-à-dire que cette plateforme, elle est née après une autre qui s'appelait APB et qui elle-même suivait d'autres moyens de répartir, disons, les élèves dans les parcours supérieurs. Moi, à mon époque, ça s'appelait Ravel. Quelles ont été, disons, les évolutions de ces algorithmes, de ces machines, ou en tout cas de ces manières souvent automatisées d'organiser la manière dont les élèves entraient dans le parcours supérieur au cours du temps?
Alors, l'idée est assez simple, c'est que quand on veut affecter des bacheliers dans l'enseignement supérieur, on se retrouve avec un problème au niveau de toutes les filières sélectives qui sont que les bacheliers veulent évidemment les meilleures formations et les formations veulent évidemment les meilleurs bacheliers. Donc avant, on avait un double système, un système qui était sélectif d'un côté, qui était... où APB était au centre, et ce que essayait de faire APB, c'est que il utilisait un algorithme qui permettait de donner la priorité à la fois aux formations et à la fois aux bacheliers, en essayant de satisfaire un petit peu les deux.
C'est-à-dire que les formations pouvaient choisir, avaient quand même une entrée sur les bacheliers, enfin sur le classement, et pouvaient choisir un peu les meilleurs élèves, mais on avait aussi une partie qui prenait en compte que les élèves soient le plus satisfaits possible dans leurs souhaits.
Exactement. Les élèves faisaient une hiérarchie des vœux, on appelait ça, c'est-à-dire classer les formations où ils voulaient aller, et l'algorithme essayait de les satisfaire au mieux. Donc sur le premier tour, on avait 60% de satisfaction sur le premier vœu. À côté de ça, on avait des filières non sélectives, et les filières non sélectives, on y entrait simplement en ayant le bac, c'est-à-dire que à l'ancienne époque, il suffisait de...
se pointer à l'université.
Voilà, se pointer à l'université avec son bac en poche, et on payait ses frais d'inscription, et puis on allait là où on voulait. Avec APB, au début, c'était uniquement les filières sélectives. On a commencé à y rajouter les filières non sélectives, mais c'était seulement pour des problèmes administratifs et techniques, pour que ce soit plus simple. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 10 ans de ça, on a commencé à avoir l'autonomie des universités. On a eu un boom démographique. Les budgets n'ont pas suivi. Et comme les bacheliers avaient la totale liberté de choisir leur filière, on s'est retrouvé avec des tensions, dans les filières en tension, où on ne pouvait plus recevoir tout le monde, et c'est là où le fameux tirage au sort est arrivé.
Voilà, c'est ça, c'est-à-dire que des filières, on a appliqué un système qui était uniquement destiné aux filières sélectives, finalement à toutes les filières, pour plusieurs raisons, simplicité administrative, mais aussi parce qu'il y avait tension dans les filières qui n'étaient pas censées être sélectives.
Exactement.
Donc on a généralisé la sélectivité d'une certaine manière.
Toute l'idée de Parcoursup est celle-là, c'est qu'effectivement, comme on avait quelques filières en tension, on avait deux moyens de régler ça, soit on remettait du budget pour arriver à augmenter le nombre de places, soit on utilisait exactement le même système qui se faisait pour les filières sélectives sur les filières non sélectives, c'est-à-dire que quelque part, on affaiblit la liberté des bacheliers de choisir leur propre orientation et on confie une part de la décision de cette orientation aux universités, aux institutions.
Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, vous l'avez dit. Donc on est dans une espèce de primauté, disons, du choix de la formation elle-même sur les élèves, puisque du coup on n'a plus de hiérarchie de vœux dans Parcoursup, c'est ça. Et qu'est-ce qui se passe concrètement? On a vu avec ces élèves qui, pour la moitié d'entre eux, reçoivent des messages qui leur disent qu'ils sont en attente.
Voilà, alors toute l'idée de Parcoursup, c'est de dire pour que les formations choisissent leurs élèves et pour que les élèves choisissent leur formation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la moitié des élèves en attente des choix de la première moitié. Donc c'est ce qu'on a vu à l'ouverture de la plateforme Parcoursup, la moitié des candidats qui avaient tous leurs vœux en attente. En réalité, cette attente, elle était... sur la première moitié, les mieux classés, qui eux étaient en train de faire leur choix. Et cette première moitié mieux classée était elle-même en train d'attendre le premier quart le mieux classé, qui devait aussi faire son choix, qui attend lui-même le premier, 16e mieux classé, etc., etc., etc.
Mais ça veut dire aussi que les jeux sont beaucoup plus faits au moment où on passe son bac, je dirais même avant qu'on passe son bac, que ce n'était le cas auparavant, en réalité, avec Parcoursup.
Alors, en réalité, puisque effectivement tout le classement se fait sur les notes de contrôle continu, on se retrouve avec un système d'orientation un petit peu plus tubulaire, c'est-à-dire que au meilleur vous êtes au lycée, au mieux vous pourrez avoir une formation dans le supérieur. Les mieux classés choisissent plus facilement leur formation.
C'est un changement de paradigme aussi politique et même presque philosophique, parce qu'il y avait aussi cette espèce d'idée qu'on peut se réinventer à la fac dans un pays comme la France.
Exactement, c'est-à-dire que cette espèce de remise à zéro qu'on avait à l'université et qui n'était pas insensée, puisque les cours n'ont strictement rien à voir dans l'université et dans le secondaire, là ça va être beaucoup plus difficile, il va y avoir une forme de continuité dans les parcours.
Autre conséquence très importante de ce changement de paradigme avec l'entrée en jeu de Parcoursup, c'est qu'il y a une immense concurrence aussi, non seulement entre les élèves, mais entre les parcours de formation supérieure, donc entre les universités. Donc ça renforce encore ce que mettait en place déjà la loi sur la réforme de l'université, sur
Exactement.
L'autonomie des universités.
Alors ça, c'est le second effet, c'est que les filières vont devoir se mettre en concurrence pour arriver à obtenir les meilleurs bacheliers, forcément. Donc cette concurrence, elle se matérialise déjà au niveau des universités qui vont essayer de piquer les meilleurs candidats aux autres universités. Mais en fait, elle se matérialise déjà à l'intérieur même des universités.
Avec une concurrence interne.
Voilà. Les facultés vont essayer de prendre les meilleurs candidats aux facultés d'à côté, et y compris au niveau des diplômes, puisque avec ce système où on va pouvoir sélectionner les meilleurs étudiants, un diplôme pour arriver à survivre, si vous êtes face à un amphi qui déborde, 600 personnes, tous les diplômes sont évalués en fonction de critères de performance. Ces critères de performance, par exemple le taux de réussite, le taux d'insertion professionnelle, le taux de pression, qui sont extrêmement difficiles à améliorer. D'ailleurs, avec plus de moyens, on peut essayer d'améliorer ces choses-là, mais en général, on n'a pas des résultats extraordinaires. Une très bonne façon d'améliorer ces indicateurs de performance, c'est de recréer, parallèlement à ça, une petite filière extrêmement sélective. C'est-à-dire, on a un amphi de 600 personnes qui sont venues là parce qu'ils en avaient envie. À côté de ça, on va faire une petite structure de 30 personnes, triées sur le volet, qui va prendre les meilleurs candidats parmi les 600 personnes de l'amphi à côté, et qui donc, naturellement, comme c'est les meilleurs élèves, va avoir de bien meilleurs indicateurs de performance.
Dernière spécificité de Parcoursup, on a aussi mis bout à bout, mis côte à côte, des parcours, des filières très sélectives, des filières qui ne sont pas censées l'être, et puis des filières complètement privées aussi.
Exactement, donc Parcoursup a été prévu comme ça, on va vouloir y rentrer toutes les filières, y compris les filières payantes privées. En fait, on en fait un grand catalogue national de toutes les filières du supérieur, ce qui va permettre aux étudiants de faire leur choix, de les comparer dans une concurrence quasi parfaite entre toutes les formations du pays.
Et une dernière question qu'on a posée la semaine dernière ici dans Softpower, dans le débat le numérique et politique, est-ce qu'on a vraiment besoin, et c'est la question que certains se posent, d'un algorithme, d'une machine pour résoudre ces problèmes, à savoir ceux du parcours supérieur, avec évidemment tout ce qu'on a ciblé, tous les problèmes qui se sont posés, toutes les frustrations que ça peut créer, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un algorithme? Qu'en pensez-vous ?
Je crois que ce que prouve Parcoursup, c'est effectivement que pour certains problèmes extrêmement difficiles, comme l'affectation de 800 000 bacheliers sur 13 000 filières, une machine fait bien mieux que l'humain. C'est-à-dire que quand on attend que les 800 000 candidats choisissent les uns après les autres, renoncent pour donner les vœux, etc., ça va prendre extrêmement du temps, du stress. Il n'y a rien qui dit que les choix seront meilleurs. Alors que quand on laisse faire la machine, elle est faite pour ça, elle va avoir la tête froide, la machine a la tête froide, et elle va pouvoir calculer une solution qui est beaucoup plus efficace et beaucoup plus vite.
Et quid de la transparence justement dans ces questions-là? Vous êtes en train de nous dire en gros, l'algorithme c'est pas le problème, c'est les présupposés qu'on lui donne en fait, c'est la manière dont on le construit, donc s'il y a des critiques elles doivent être à cet endroit-là. Dernière question, évidemment on l'a dit, l'algorithme est censé être transparent, on a été le regarder, Frédéric et moi, on pouvait pas y comprendre grand-chose. Vous avez fait un très bel article de blog qui nous explique très bien la manière dont tout ça se fait. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on aille au bout de la transparence? À la fin de tous ces débats qui ont eu lieu depuis ces dernières semaines, est-ce que vous, est-ce que moi, on a le droit de demander concrètement comment chaque élève a été classé?
Alors, il y a effectivement deux niveaux. Il y a l'algorithme national qui fait l'affectation, et puis après, il y a ce qu'on appelle les algorithmes locaux, qui vont en fait trier les candidats dans chacune des formations. C'est les commissions d'examen de vœux qui font ça. Il y en a une par formation, donc il y en a énormément en France.
Hein,
il y en a
13 000.
Plus de 13 000, exactement. Il y a de fortes chances pour que ce classement soit soumis tout bêtement à la loi informatique et liberté, c'est-à-dire que chaque candidat puisse demander comment a été triée sa candidature en obtenant la totalité des critères. Si vous allez voir le texte de la loi, ça va jusqu'à la pondération, donc la pondération entre les notes, la façon dont on a calculé la moyenne.
C'est important que les gens le fassent, ça ?
Oui, c'est important parce que...
Vous êtes parent, il faut que vous le fassiez.
Oui, alors parent, il faudra voir parce que c'est quand même le candidat qui est impacté en premier lieu. On est en train de changer tout le système d'orientation dans le supérieur de tous les bacheliers de France. Il est très important qu'on sache exactement comment les gens sont classés.
Merci beaucoup Julien Gossa. Donc j'invite tout le monde à retrouver votre blog Éduc Pro. On vous mettra le lien évidemment sur Twitter et dans la page de l'invité Innovation de Soft Power. Merci beaucoup.
Merci, bonsoir.